Et vous écoutiez Royalty de Esgod. Non, E-G-Z-O-D. Fait que Exode, comme un exode, probablement. Fuck, man, c'est bon. Fait que vous écoutiez cette chanson-là, qui est définitivement la tune du moment. Royalty, c'est genre, t'écoutes ça dans ton workout, man, puis tu te sens juste en prep pour la plus grosse compée du monde, peu importe c'est quoi. Moi, ça me craque épouvantable. Fait que c'est ça la tune du moment, qui est aussi la tune du workout. Royalty. Exode, fais juste écrire Royalty, sérieux, c'est une des tunes les plus utilisées dans tout ce qui est Reels d'Instagram et tout, fait que vous devriez pas mal l'avoir déjà entendu quelque part. Excellente chanson. Aujourd'hui, podcast un petit peu plus soft, podcast un petit peu plus particulier parce que j'aime ça faire les podcasts debout, mais là vous me voyez pas parce que c'est un podcast, mais normalement je suis debout, mon bureau est levé, puis je bouge même tout bord du côté de la pièce, puis c'est pour ça des fois que vous voyez que le son il bouge parce que je bouge vraiment beaucoup, puis, puis j'ai de la misère à me contrôler. Sauf qu'aujourd'hui, truc un peu différent, mon fucking bureau debout vient de me lâcher même, fait que je suis prêt à lever mon bureau, fait que je suis assis. Puis la raison pour laquelle je fais pas de podcast assis, c'est parce que ma chaise craque vraiment beaucoup. Ça se fait que vous entendiez des bruits whack, je promets que c'est la chaise, c'est ça qui se passe en arrière. Puis si vous êtes client et que je t'assis quand je parle, vous entendez tout le temps des bruits weird, ça va être familier, ambiance familière. Si on est chanceux, ça va, contribuer à l'ambiance générale anyway. T'sais. Fait que podcast aujourd'hui, petite histoire que je pense qui est vraiment intéressante parce que j'ai envoyé un email là-dessus il y a 2 semaines, 3 semaines. J'ai envoyé un courriel sur l'histoire d'une cliente, d'une transformation que j'ai sortie sur Momentum. Puis on a rejasé un peu, puis après ça, j'ai eu des discussions avec la cliente. Puis j'ai trouvé, elle a dit quelque chose que j'ai vraiment, vraiment trouvé malade, qui je crois est la perception de beaucoup de monde. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça pourrait pas être plus loin de la réalité quand on prend, quand on prend le temps de l'analyser. Puis je pense sincèrement que c'est quelque chose que le monde a beaucoup en tête. Puis c'est vraiment, vraiment une erreur de conceptualiser ça. Puis je pense que ça a beaucoup de valeur de jouer de ça et d'amener ce concept-là. Je vous mets en contexte avec l'histoire. C'est une transfo que j'ai sortie d'une cliente qui partait d'un petit peu de loin. Là, elle s'était blessée à cheville. Elle avait de la misère. C'est une coureuse. Elle avait de la misère à courir. Elle avait resté puis ça marchait pas trop. Elle avait pris du poids. Elle était putain en shape. Puis ça. Fait que c'est quand même. Partait quand même un petit peu loin. Puis en 12 semaines, elle a fait son meilleur temps sur un 10 km. Elle a perdu. J'ai pas ressorti les stats. J'aurais dû amener les stats pour le podcast. J'ai pas pensé. Je me trompe pas 15 livres. 15-20 livres, une affaire de même. Fait quand même une solide perte de poids en 12 semaines. Mais surtout, genre, une affaire de 3-4 pouces de circonférence de taille. Ce qui est, genre, c'est pas on diminue d'une taille de pantalon. Là. C'est on baisse de plusieurs tailles de pantalon en 3 mois. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment significatif. C'est énorme. Puis, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle a amélioré son meilleur 10 km à vie, qu'elle a recommencé à courir. Puis, on a comme rehab sa cheville en même temps. Puis, suite à ça, elle m'a dit de quoi que j'ai trouvé vraiment cool. Elle m'a dit, genre, c'est malade, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu tout faire en même temps. C'est, il aurait fallu que je séquence puis systématise. Puis vraiment, une fois à la fois, j'aurais vraiment pas pensé qu'on aurait pu juste tout faire ça en même temps. Puis c'est sûr que je comprends son point de vue. Je comprends vraiment son point de vue. Puis surtout quand on met à transfo ses médias sociaux après ou la photo, genre, le monde sont comme, wow, une à 12 semaines, tout a levé en même temps, a perdu 20 livres, a amélioré sa course, tout fait ses affaires. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand on décortique la prep que j'ai faite en arrière, non seulement on n'a pas tout fait en même temps, mais il y a eu bien des fois, man, où est-ce que qu'est-ce qu'on faisait, c'était carrément opposé, voire complètement opposé en termes de phase d'entraînement. Puis c'est un concept que ça fait longtemps que j'essaie d'amener dans un podcast, puis que je suis pas capable de dire que l'objet, ben, je l'ai déjà expliqué, ou j'ai déjà essayé de le dire comme de cette manière-là, où est-ce que l'entraînement, essentiellement, c'est que tu veux piler des blocs sur une période relativement longue, fait que tu sais, une phase d'entraînement est un bloc ou un entraînement en soi est un bloc, ben, tu ne veux pas juste arriver puis faire livrer le... Tu sais, j'ai juste une métaphore de voyage de terre d'en face, là. Tu sais, quand tu appelles des gars pour te livrer de la terre, ils font juste te sacrer ça chez vous. Genre, puis tu as juste une grosse sale pile de terre, là. Mais tu sais, ce n'est pas exactement ça que tu veux, là. Ce que tu veux, c'est te faire livrer des petits paquets de terre puis éventuellement les piler de manière à te faire un fort, tranquillement, pas vite, puis ultimement gagner la guerre des trucs. Fait que tu sais, essentiellement, ce que tu veux, c'est piler tous tes blocs un à un pour dire que non seulement tes phases d'entraînement, ils s'ajoutent, mais ils finissent par compléter un tout, puis vraiment, vraiment s'additionner, tu sais. Puis c'est ça que le monde, ils comprennent pas. Puis moi, il n'y a aucun de mes clients qui est programmé. La plupart de mes clients sont périodisés. Puis la différence est vraiment importante parce qu'une programmation, c'est juste une phase d'entraînement ou c'est juste ton programme d'entraînement que tu fais actuel. Une périodisation, c'est comment qu'on va enchaîner les différents programmes de manière à ce qu'ils soient synergiques l'un entre eux. Fait que c'est plus 1 plus 1 égale 2, ça devient vraiment une multiplication. Tu sais, ça devient, mais là, on a 2 fois 2 est égal 4. Fait que là, ça monte comme beaucoup plus vite. Puis c'est exactement ça qui s'est passé avec cette cliente-là. De genre, de l'extérieur, en 12 semaines, tu as l'impression qu'on a tout fait en même temps, mais ça prep. Je vais essayer de donner un exemple concret de comment on structure ça normalement des affaires de même, puis comment que j'ai fait avec cette cliente-là précise, parce que c'est vraiment un concept que le monde a misère à focusser, ou du moins à appliquer. Fait que je vais essayer de vous rendre ça vraiment, vraiment plus concret. On a commencé, premièrement, on est comme sorti, puis là, la cheville, ça allait pas bien, puis la course était relativement inaccessible dans un premier temps. Fait que, écoutez, j'ai pas parti ça, puis j'ai pas été vraiment. On a séparé ça en trois phases d'entraînement. La première phase, j'étais comme, bon, OK, fine. On part quand même de relativement loin. Qu'est-ce qui est accessible? Puis honnêtement, ça a juste été ça, man. Ma première intervention, ma première phase, c'est genre, right, fine. Il y a quand même beaucoup d'affaires qu'on peut pas faire. C'est chiant, c'est lourd, je comprends. Mais autant que c'est tannant d'avoir beaucoup d'affaires qu'on peut pas faire, ça nous donne beaucoup, beaucoup de clarité sur qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais. Fait que là, je suis comme, all right, good, man. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers quoi qu'on s'enligne? Qu'est-ce qui est accessible en ce moment? Puis là, à force de décortiquer, ben, la cheville, elle filait pas trop. La course, c'était fucking no-go. Fait que j'ai comme, bon, ben, là, tu consultes pour une paire de gras puis pouvoir starter tes trucs. Fait qu'on va quand même focusser sur le seul objectif qui est accessible live, qui est quand même la paire de gras. On va donner une grosse go sur la rehab de cheville. On recommencera réalistiquement pas tant à courir ou très légèrement, à moins que tu sois vraiment, vraiment à l'aise. Fait que la course va être non seulement en maintien, mais on va vraiment, vraiment focusser sur la cheville. Puis après ça, on va focusser sur l'alimentation en même temps. Puis tu sais, on va te trouver des activités, des workouts que tu peux faire, même si c'est pas directement aligné avec tes objectifs. On va te tourner un peu plus vers l'entraînement en résistance. Dans ce cas-là, c'était comme le CrossFit, les cours de groupe un peu plus. Fait que tu sais, tu vas faire tes cours de groupe. Fait que ça, tu le fais déjà. On met ça sur hold. Ça lâche pas. Mais l'important que ça lâche pas. Par contre, la priorité est vraiment, vraiment mise sur l'alimentation. Puis la rehab de cheville. Fait qu'on a kickstarté ça vraiment, vraiment à niveau alimentaire. Première phase d'entraînement, c'était juste, c'est là qu'il a perdu la plupart de son poids d'ailleurs. Fait que c'est vraiment juste, OK, on va être tête là-dessus, on va optimiser les affaires, on va compter nos trucs, on va vraiment se faire une phase d'entraînement de 4 semaines. Puis finalement, après 2 semaines, ça a commencé à vraiment bien aller, il était vraiment, vraiment très steady sur ses exercices. Puis après, genre 2-3 semaines, j'étais comme, OK, wow, ça commence à vraiment ressembler à de quoi? Serais-tu à l'aise à qu'on commence à courir? Fait que c'est après 3 semaines, on a commencé à courir tranquillement. Puis après ça, on a recommencé à builder en mettant les apports sur maintien. Puis après un autre coup de semaine, on a fait comme une phase d'entraînement de 4 semaines de même. Après un autre couple de semaines, on était rendu où est-ce que là? Bien là, ça allait sérieusement bien. Puis que si on commençait à se préparer pour la course, on pouvait peut-être s'enligner pour faire un 10 km parce que c'était ça son objectif de l'année. Dans le fond, c'est de faire un autre 10 km. Fait qu'après ça, on a comme restarté notre deuxième phase d'entraînement sur 4 à 5 semaines, que là, c'est devenu all right, fine. Là, on a la course. Ça fait 2 semaines que tu te fais un fond. La plupart des programmes, pas la plupart, là, mais ça, c'est peut-être un petit hack, justement, qui vaut la peine d'être dit sur un podcast, parce que je pense qu'il y a bien du monde, je sais pas à quel point le monde connaît ça, en fait. J'en ai aucune idée. Je sais-tu, moi, ce que vous connaissez. Mais un des meilleurs programmes qui existent définitivement pour le retour à la course, c'est les programmes fractionnés de la clinique du coureur. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment les meilleurs. Puis la plupart de ces programmes-là sont faits pour... C'est avec ça que la plupart des physios travaillent anyway lorsqu'il y a des blessures, je vous dirais. Là. Mais tu sais, c'est des programmes qui sont faits pour être faits entre 3 et 5 fois par semaine. Fait que c'est quand même beaucoup de fréquence. Fait que ça te demande d'être sérieux puis de le pratiquer un peu. Je me l'ai de la physio, mais tu sais, le point étant, si t'es vraiment religieux puis tu fais du 5 fois semaine, ce qui arrivera probablement pas parce que c'est quand même rare qu'il n'y ait pas de setback. Là. C'est quand même rare que tu fais un truc, mettons, où est-ce que là tu suis parfaitement la progression. La consigne, c'est genre, si tu as des symptômes ou tu as quoi que ce soit, ben tu retournes à l'autre étape d'avant. Fait que des fois, il y a des sorties qui sont répétées, puis des trucs comme ça. Mais tu sais, en théorie, dans un monde idéal, c'est un programme qui se complète en 3 semaines. Fait que tu sais, en 3 semaines, tu peux retourner à courir des sorties en continu habituel. Puis c'est exactement ça qui s'est passé pas mal avec cette cliente-là. Fait que c'est là, on a rembarqué sur ça, on a recommencé à courir un petit peu là-dedans. Elle a fini son programme de 3 semaines. Après 4 semaines, elle était rendue à des trainings continus. Sauf qu'on est quand même passé genre de 0 à 30 là, ou pas mal. Là. Fait que à part ça, là, notre deuxième phase d'entraînement, on était comme OK, on a donné une grosse grosse à la paire de gras. La cheville est pas mal chill, la rehab est pas mal étalée. Puis après ça, on va s'organiser pour là, on a une course qui s'en vient, on va la faire. La course était relativement tôt, je pense que c'est préparé genre 4 semaines autres, on va la faire de même. On s'est comme, bon, fine. Fait que là, on va vraiment, vraiment commencer à pousser la course. Fait que ça veut dire que si on commence à vraiment pousser la course, on va arrêter de faire les déficits caloriques parce que ça va nuire à ta performance. Fait que vous vous rappelez notre objectif de perte de gras au début? On a quand même une couple de semaines où est-ce qu'on a littéralement été en maintien calorique. Fait que là, on est non seulement je suis plus en perte de gras, qui était l'objectif initial, mais on a eu peut-être un 4 semaines sur son 12 semaines où est-ce que là, c'était carrément l'inverse. L'objectif n'était plus de perdre du gras. L'objectif, c'était de maintenir ton poids puis de pousser à la course. Puis ça devient vraiment, vraiment facile de faire ça lorsque tes KPI sont vraiment clairement identifiés. Genre, quand tu sais c'est quoi l'intention primaire ou c'est quoi la direction, c'est vraiment, vraiment facile à sous-diviser en catégories. Puis c'est ça que le monde ne font pas dans leur phase d'entraînement. Fait que tu sais, elle, il y avait comme une chaîne d'objectifs qui était genre, rehab ma cheville, commence à courir, perdre du poids. Au début, on a commencé avec la perte de poids puis la rehab de cheville parce que normalement, on n'avait pas trop d'options. On n'avait pas vraiment d'autres affaires, fait qu'on l'a starté de même. Après ça, on a rebuildé vraiment la course puis on est comme, bon, là, ça commence à pousser. On va slacker un peu sur la perte de gras. Je pense que je l'avais mis en maintien, mais je pense que je l'ai mis comme en très, très léger surplus, genre en très, très léger déficit, juste pour dire probablement plus proche des apports de maintien qu'autre chose. Fait que ça, on arrête de pousser la perte de gras comme priorité numéro 1. Par contre, on va enchaîner notre course un petit peu après. Fait que, tu sais, on est rendu à, on court pas à, la course est prioritaire et ça dans un bloc uniquement de 4 semaines, tu sais, fait que ça peut quand même revirer relativement vite. Pour après ça, quand on a repoussé, Ben là, dans le dernier 4 semaines, on a fait « alright, là, la course est faite. On va commencer à donner une petite go à shape. On va faire une phase d'entraînement qui va être plus axée muscu, plus renfort, plus tout pour... » La personne en question est embarquée sur suivi en ligne régulier après. Fait que, on continue. Fait que là, j'ai plus de temps pour planifier mes affaires. Mais tu sais, sa dernière phase d'entraînement de 4 semaines, mais là, elle a été axée beaucoup sur faire de la muscu, sur builder notre prochaine phase d'entraînement qui n'est toujours pas arrivée encore, qui va probablement pousser un peu plus au niveau. Somme toute, ce qu'elle désire faire, elle désire faire des meilleurs temps que ce qu'elle a fait. En ce moment, j'estime qu'elle est limitée beaucoup par sa capacité aérobique. Fait que, tu sais, on va faire une phase d'entraînement qui va être vraiment axée sur développer son cardio pour vraiment faire des gros intervalles. Sauf que contrairement à ce qu'on pense, ça se prépare, cette affaire-là, parce que c'est une phase d'entraînement qui est quand même assez intense. Puis c'est un peu le même concept avec l'entraînement d'hypertrophie de manière spécifique. C'est vraiment une grosse phase d'entraînement d'hypertrophie où est-ce que tu vas te faire une phase d'entraînement que tu sais que ça va être chaos mode, ça va être vraiment difficile, le volume va être haut, peut-être l'intensité va être relativement haute aussi en même temps. Tu sais, une grosse phase d'entraînement dans ton année. Tu ne vas pas juste dropper ça un lundi matin. Tu vas avoir une phase d'entraînement où est-ce que tu vas peut-être travailler ta capacité de soutenir du volume à une intensité un peu plus élevée. Si tu as un groupe musculaire que tu tiens à développer, que tu n'as pas un bon mind muscle, ce qui est 99% du temps, tu as de la misère à bien sentir ce muscle-là, ben, réalistiquement, ce que tu vas faire, tu vas avoir une phase d'entraînement où est-ce que tu vas préparer puis tu vas te concentrer sur maintenir ou garder ton ressenti musculaire ou ton mind muscle un peu plus steady. Fait que tu es capable de garder cette contraction-là sous tension. Après ça, d'être capable de, si tu estimes que tu as une faiblesse musculaire, ce qui est aussi souvent le cas, ben, tu vas faire une phase de renfort. Pour vraiment axer sur prendre la force sur ce groupe musculaire précis-là. Fait que, tu sais, après ça, tu vas probablement l'enchaîner sur ta phase d'hypertrophie spécifique. Fait que, oui, tu as eu une phase d'hypertrophie spécifique de 6 semaines, mettons, mais ça a été préparé par 3 autres semaines d'avant. Fait qu'ultimement, ta phase de 6 semaines, elle arrive uniquement, ben, pas uniquement, tu aurais pu juste la sacrer dans la semaine de quelqu'un puis la sacrer comme ça, mais elle a été préparée, puis là, tu arrives, puis là, elle fait beaucoup de sens parce que la table a été mise à cette phase d'entraînement-là. Puis c'est vraiment, vraiment comme ça qu'il faut voir une périodisation, puis il faut voir un entraînement nécessairement. C'est, tu devrais travailler de manière à ce que quand tu arrives à l'objectif ou que tu arrives à l'intention précise de ce que tu essaies de faire, la table est mise et tu es rendu prêt à le faire, ce qui est une des raisons, voire la raison pour laquelle le monde ne sont pas capables de perdre du gras. Je vous dirais, c'est genre, le monde ne sont pas assez en shape pour perdre du poids sans faire des calories de misère, fait que sans faire des diètes qui sont vraiment, vraiment très bas parce que ça ne bouge pas dans une journée, fait que ça n'a pas la capacité. Il y a beaucoup de monde qui n'ont juste pas la capacité et qui n'ont juste pas la condition physique pour bouger puis soutenir un décent niveau d'activité physique. Et ça, je parle pas de faire des genres de 3 heures de course par jour, là. C'est pas ça le move, là. C'est d'avoir ce qu'on considère comme un niveau normal d'activité physique. Il y a bien du monde qui ont juste pas la condition physique pour être capable de soutenir ça, tu sais. Fait que t'es rendu où est-ce que là, pour qu'eux fassent ça, ça leur demande une quantité... Oups, ça c'était mes écouteurs. Ça leur demande une grosse quantité d'énergie physique. Déjà, il faut qu'ils mettent beaucoup de temps parce que tu veux faire 10 000 pas, mais la seule affaire que t'es capable de faire, c'est de la marche. Tu vas marcher pas pire, mon chum, là. Tu risques de passer pas mal de temps dans ta journée à marcher. Fait que ça, physiquement, of course, ça va être quand même épuisant. Mais aussi, logistiquement, ça va être vraiment, vraiment difficile. De genre, là, man, faut que tu te mettes fucking 3 heures de marche. J'exagère, je sais, là. Mais tu sais, faut que tu te mettes 3 heures de marche dans ta journée à tous les jours. Ben, ça se peut que ton intervention soit pas soutenable. Puis on a exactement le même buzz en termes d'alimentation, où est-ce que le monde ne bouge pas assez, n'ont jamais pris le temps de développer leur skill de cuisine, n'ont jamais pris le temps de développer toutes ces affaires-là. Fait que la seule manière qu'ils connaissent pour perdre du gras, c'est une diète de poulet brocolerie. Fait que le monde, au lieu de se setuper, ou que je reprends ma métaphore de mettre la table de tantôt, au lieu de carrément mettre la table pour le succès, le monde met la table pour l'échec, là, littéralement, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de travailler sur les autres éléments limitants qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. L'exemple de la personne fictive qu'on a là en ce moment, c'est pas compliqué, c'est genre, là, tu vas faire une phase d'entraînement où est-ce que ton poids n'a pas grand-chose à branler, man. Là, ce que tu vas faire, c'est devenir plus en shape en général. Fait que ça peut vouloir dire prendre la force, ça peut vouloir dire améliorer ton cardio, puis ça va vouloir dire d'être vraiment, vraiment honnête. Puis si toi, les diètes que tu as faites dans le passé, c'est du fucking poulet brocolé. Brocolé. Pourquoi j'ai tout le temps brocolé, man? J'ai le temps ça dans un podcast. Poulet brocoli riz, puis la seule chose que tu peux faire, c'est être capable de faire une diète quand tu es juste fucking all out tout le temps dedans, puis que tu n'as pas de marge d'erreur pour te cuisiner des desserts qui sont mieux, ou tu ne connais pas d'alternative parce que tu n'as jamais pris le temps de jouer avec, ou tu n'as jamais pris le temps. Impressionnant comment ça sauve des vies, un barbecue, sérieusement, là, en termes de diète, parce que ça te permet vraiment de jouer avec différentes saveurs et différentes affaires. Mais ce sont juste mes propres préférences que je projette en ce moment. Mais tu sais, sincèrement, je pense que le barbecue, c'est vraiment awesome parce que tu peux faire des recettes absolument folles. Tu peux prendre des trucs qui sont vraiment, vraiment très, très basiques, puis sur un barbecue, ça devient insane. Là. Genre, il y a plusieurs recettes. Tu sais, je reprends ma métaphore très plate du poulet, brocoli, puis même des petites affaires de même. Là. Il y a bien des trucs que tu fais dans un four qui sont misérables et pas intéressantes avec ça. Puis dans un barbecue, je vous jure que tu as plein de recettes. Une des recettes les plus malades que moi, je fais tout le temps en meal prep, c'est ça, c'est du poulet. Puis c'est juste le poulet Caraïbe de Barbecue Québec. C'est malade. Googlez ça, pour vrai. Poulet Caraïbe Barbecue Québec, la recette est folle. C'est tellement niaiseux à faire, là. Sincèrement, ça prend 4 secondes. Puis c'est de la cuisson indirecte sur barbecue. Fait que t'as même pas besoin de rester physiquement devant ton barbecue. Parce que ce que tu fais, c'est que tu ouvres tes brûleurs sur le côté, mettons. Puis t'as comme une zone où est-ce que t'as pas de feu direct. Fait que t'as, mettons, j'ai 4 brûleurs. Ben, j'ouvre mon brûleur 1 à gauche, puis mon brûleur 3, mon brûleur 4, mettons, qui est complètement à droite. Le brûleur 2 puis 3, il n'y a pas de feu en dessous. Fait que tu mets ton poulet là. Comme ça, tu vas comme bénéficier de la cuisson du barbecue, mais sans directement être en dessous de la flamme. Fait qu'il y a quand même beaucoup moins de risque que tu l'échappes et que ça brûle. Fait que tu as comme le bon côté de la saveur du barbecue puis la texture différente qu'amène le barbecue avec. Parce que bref, ça pour dire ça. Donc, ça par rapport à la parenthèse du barbecue, excusez-moi. Fait que bref, ça pour dire, skill de cuisine, vraiment important sur une paire de gras, toutes ces affaires-là. Puis c'est un peu ça la métaphore, c'est que le monde ne prenne pas le temps de décortiquer leurs affaires. Puis fondamentalement, ça se résume très probablement à un fuck de patience, tu sais. Mais fondamentalement, c'est quand même vraiment, vraiment important de piler ces blocs-là de manière à progresser. Puis tu sais, cette cliente-là, même si ça m'a clairement dit, waouh, on a tout fait en même temps, quand tu prends le temps de l'analyser, t'es vraiment, vraiment une étape où est-ce que non seulement on n'a pas fait tout en même temps, mais qu'il y a eu bien des moments où est-ce qu'on faisait des choses qui étaient carrément opposées. Genre phase 1, perte de gras, bâtir la cheville, pas de course. Phase 2, plus de perte de gras, on commence à pousser la course un petit peu plus. Puis phase 3, ben là, on est comme, là, on fait carrément priorité muscu, puis on ramène notre déficit calorique un peu. Fait que tu sais, il y a eu des phases qui étaient vraiment, vraiment 100% différentes. D'après ça, la course en phase 3 était complètement sur maintien. Elle était genre, all right, fine, c'est quoi le minimum que tu peux faire pour avoir du plaisir puis que ça soit pas lourd en logistique et en temps pour toi? Ça va être ça, ta course, man, pour 4 semaines. T'as-tu de ta salle? Fait qu'on n'est pas dans la course dans phase 1 où est-ce qu'on court pas ou presque pas. On n'est pas dans phase 2 où est-ce que là, on court clairement beaucoup puis c'est ça notre marqueur numéro 1 de succès. Puis on n'est pas dans phase 3 où est-ce que dans le fond, je m'en fous puis tu feras bien ce que tu veux en ce moment, tu sais, tant que tu gardes un certain volume. Ça, c'est quand même important d'avoir une petite parenthèse de course. Jamais vous avez des objectifs de course. Le monde fait comme, ah, ben, je vais arrêter de courir puis je recommencerai, mettons, parce que ça me tente pas de courir l'hiver. C'est impressionnant comment ça peut faciliter une prep future juste quand tu gardes une seule petite sortie steady par semaine. Parce que tu ne restartes pas de zéro, fait que le rebuild après est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse. Tu gagnes quand même considérablement du temps juste en garder une petite main sauf, même si en soi, elle a l'air de rien. Et lorsque tu vas recommencer à monter ton volume, ça va vraiment, vraiment paraître. Fait que bref, ça pour dire. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste amener ça, ce concept-là, parce que c'est quelque chose que j'essaie de vous dire. Si tout est une priorité, rien n'est une priorité. Ça, j'ai l'impression que je l'ai dit relativement souvent. Puis à partir du moment où est-ce que tu sais dans quoi tu t'en viens, c'est vraiment important que tu te fixes maximum une priorité puis une sous-catégorie de ce que tu essaies d'atteindre comme objectif. Puis là tu sais, là, je veux dire, je suis entraîneur professionnel, je fais ça depuis 15 ans, je suis quand même pas super pour structurer des blocs de manière à ce qu'ils progressent dans le temps, right? Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être une progression qui est parfaite. Idéalement, c'est sûr que ça serait synergique ta progression dans le temps, ce qui est l'intérêt d'une périodisation. Mais tu sais, juste des décortiquer puis des enchaîner un tranquillement, même si tu mets ton morceau C avant ton morceau de A, ultimement, ça va te faire une pas mal plus solide fondation que si tu es juste le livreur de terre qui arrive ça puis qui fait juste sacrer un paquet de terre, vous voyez ça comme un paquet d'entraînement en ce moment, direct sur ta cour, puis comme « arrange-toi avec ça, mon chum », ce qui est ce que la plupart du monde font dans un gym. Si vous avez aimé le podcast, je vais vous laisser là-dessus, je pense, je vais vous laisser avec la fin de la toune, puis je vais vous dire, allez vous entraîner avec cette toune-là, pour vrai. Royalty, Exode, vraiment, vraiment excellent. Allez vous entraîner avec ça, vous allez voir, ça, c'est merveilleux, cette toune-là. Si vous avez aimé le podcast, je me prépare à écrire un fameux email en ce moment que je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous rendre ces fameux emails. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de love sur les fameux emails. Le texte est dans la description. Le lien est dans la description pour rejoindre l'email. Puis on se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye! See you.